Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui commence dans le chaos et la confusion. Après, comment dire, un peu de musique choisie comme d'habitude par le glorieux José qui a le don presque surhumain de choisir des musiques qui sont en rapport avec le thème de l'émission. Il est possible qu'il y ait un lien avec le fait qu'on lui indique le thème de l'émission avant, mais rien n'est moins sûr.
Un jour, on fera une émission sur José.
Voilà, et sans le prévenir. Là, il sera bien embêté. Et là, vous venez d'entendre donc un morceau de Père Ubu, Chinese Radiation. Et donc, comme je vous le disais, c'est exceptionnellement en rapport avec le thème de l'émission de ce soir, puisque José est surhumain. Et où Jean-Mathias, qui m'empêche de parler depuis maintenant trois émissions, va va parler de Jean-François Bilitaire, alors dont il avait déjà parlé dans une autre émission où il m'avait empêché de parler. C'était une émission donc Jean-François.
Ça va mieux toi, sinon au niveau paranoïa, c'est ton traitement ça.
Hein. Oh non, je travaille pour l'État, ça aide pour la paranoïa. Et donc ici l'idée c'est juste Jean-François Bilitaire, donc c'est un sinologue, un traducteur, donc spécialiste des philosophies et de la culture chinoise. Et on avait présenté, tu avais présenté un livre qui s'intitule Contre François Julien, où Bilitaire, alors François Julien, donc c'est une espèce de sinologue star qui a présenté la pensée chinoise comme une espèce d'ovni qui devait radicalement bouleverser nos modes de pensée si on arrivait à la saisir dans son altérité totale, enfin des choses comme ça. Et Bilitaire a essayé de montrer, je crois, si je me souviens bien, que là, François Julien cède un peu à l'exotisme. Et qu'en réalité, si on regarde les textes d'un peu plus près, en les confrontant à certains contextes, on peut s'apercevoir que les philosophes chinois dont traite François Julien, mais dont traite aussi Bilitaire, finalement s'adressent à des problèmes qui peuvent tout à fait nous parler, en particulier des problèmes politiques qui étaient liés à, en quelque sorte, comment se comporter ou comment penser sous un empire qui finalement laisse peu de place à la réflexion individuelle. Et donc, qui était quelque chose de beaucoup moins exotique, de beaucoup plus compréhensible pour nous autres. Et donc, ça avait été une émission que moi, j'avais appréciée. Et là, tu voudrais nous parler, donc, Bilitaire a écrit d'autres bouquins, et en particulier, il a écrit des bouquins sur un philosophe chinois que je ne connais pas du tout, qui s'appelle Chuang Tzu. D'après ce que j'ai lu rapidement, il y a quelques textes de lui, mais on n'est même pas sûr qu'ils soient vraiment de lui. Ça fait à peu près la taille de l'Évangile. Donc c'est pas énorme, c'est pas une œuvre immense. Et par contre, elle est commentée depuis très longtemps. Et donc c'est là-dessus que Bilitaire lui s'intéresse. Donc il y a deux livres publiés chez Alia, des leçons sur Chuang Tzu. Donc ça c'est le petit livre.
C'est une sorte qui peut servir d'introduction en fait. Hein.
Ouais. Voilà, donc à peine 150 pages. Et un second livre, plus robuste, il s'appelle Études sur Chuang Tzu, qui lui est quand même plus proche des 300 pages et un peu plus grand.
Il en a sorti un troisième chez Alia toujours, qui s'appelle Les Notes sur Chuang Tzu et la philosophie. Trois ouvrages, les trois chez Alia, les trois autour du Chuang Tzu. Et voilà, donc avec une espèce de une première introduction, c'est celle dont je vais parler plus tôt ce soir, c'est les leçons sur Chuang Tzu. Chuang Tzu, dit-on,
sur la prononciation exacte.
Ouais, il a tout un manuel, il fait des notes et tout un manuel justement pour expliquer un peu la prononciation des termes chinois, parce qu'il dit qu'en fait, et il a pas tort, c'est qu'en fait pour un lecteur occidental qui est pas averti ou pas spécialiste, en fait il y a une valse de noms ou de références qui fait qu'on s'y perd et c'est lié au fait au truc que c'est imprononçable. Ou en tout cas que la prononciation est hasardeuse pour nous, et ce qui fait que ça peut nuire à la concentration, parce que y a une valse de noms comme ça qui se télescope. Alors le Chuang Tzu, les leçons sur Chuang Tzu, alors c'est des leçons qu'il a fait au Collège de France en 2000, et elles ont été éditées chez Alia en 2002. Alors c'est le premier texte qu'il a publié sur Chuang Tzu. Il y a quatre leçons qui reprennent différents thèmes et différents textes qui sont commentés. Il commente différents extraits du Chuang Tzu dans ces leçons-là. Et puis donc, effectivement, après, un peu plus tard, donc toujours chez Alia, il a publié les études et encore plus récemment les notes sur Chuang Tzu. Alors, t'as dit sur Bilitaire, t'as dit effectivement l'essentiel. Hein, c'est un universitaire, donc spécialiste de l'histoire de la pensée chinoise, c'est un sinologue, donc, et c'est un traducteur. Donc, alors lui, il se définit essentiellement comme philologue, donc c'est un traducteur dont le travail consiste à établir les textes, à essayer de préciser aussi, voilà, à éditer, et à commenter en essayant d'être au plus près des textes, mais il n'a pas une formation de philosophe, et il ne se pose pas comme philosophe. Donc c'est un traducteur, un passeur, un commentateur, pourrait-on dire. Alors, le Chuang Tzu, il a fait l'essentiel de sa carrière en Suisse, à l'université de Genève, si je me souviens bien. Donc maintenant, il doit être à la retraite, il est professeur émérite. C'est quelqu'un qui est assez singulier, parce qu'en fait, alors, il a édité pratiquement toutes ses œuvres chez Alia. ce qui est un choix déjà éditorial plutôt sympathique et plutôt encourageant. Et c'est quelqu'un que moi j'aime beaucoup parce qu'en fait, alors il y a des œuvres qui sont un petit peu philosophiques de type universitaire comme celle qu'on va présenter ce soir. Ou la polémique contre François Julien dont tu avais parlé, qui était plus un texte aussi un peu de où il discutait voilà au sein des sinologues, mais il y a aussi des textes beaucoup plus personnels de lui. Il y a notamment des beaux textes sur l'expérience du deuil de sa femme, où en fait il essaye de manière très pudique hein, pour le coup, d'avoir une espèce de journal descriptif de l'expérience du deuil pour essayer de voir comment parler de ça. Donc c'est quelqu'un qui n'hésite pas à s'exposer, je dirais, sans exhibition particulière, mais toujours avec le souci essayer de tirer des leçons ou d'essayer d'avoir une approche de sa propre expérience. Il y a un petit texte qui est une espèce un peu à part aussi, qu'on aurait pu chroniquer ici, j'avais hésité un moment, mais c'est qui est en fait une espèce d'essai sur la Chine aujourd'hui et sur l'importance à ses yeux d'assumer en fait une forme de d'héritage culturel européen face justement à la culture chinoise, alors qu'il connaît particulièrement et qu'il apprécie beaucoup. Alors c'est tout sauf un identitaire hein, mais c'est quelqu'un qui réfléchit effectivement à ça, aux implications aussi un peu générales de
oui, c'est quelqu'un qui, héritage culturel, si je me souviens bien, revendique un peu l'héritage des Lumières au sens d'un individualisme, individualisme au sens de tout pour ma gueule, mais plutôt en tant qu'individu, l'usage de ma raison me permet de critiquer les normes sociales et la raison d'État.
Et il pense que c'est quelque chose effectivement que l'héritage des Lumières effectivement il est essentiellement autour de ça, et que c'est une particularité en fait dans l'histoire de la culture humaine et des cultures contemporaines, c'est-à-dire que ça se trouve pas partout, et que par exemple effectivement la culture impériale chinoise au cours du temps à peu près tout fait pour étouffer en fait hein, ce genre d'aspiration et aussi ce genre d'expérience humaine, du coup le genre d'expérience humaine que ça autorise. Donc voilà, c'est quelqu'un qui
l'héritage des Lumières l'a conduit à publier aussi des textes, à traduire et à éditer, à présenter
de Lichtenberg, c'est ça,
qui est un philosophe peu connu, 18e siècle, savant, scientifique, philosophe des Lumières, un peu critique.
Du coup, tout ça, ça fait une œuvre qui est chouette, quoi, parce que c'est une œuvre qui est très personnelle. C'est pas du tout, il construit pas du tout une espèce de champ universitaire ou d'œuvre à sa gloire. Hein. Donc c'est quelqu'un qui suit sa propre voie, qui a une réflexion très personnelle et qui a une écriture très personnelle. Alors je le signale quand même parce que il est très 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 agréable à lire ce monsieur. Donc voilà pour Bitter. Alors le Chuang Tzu, c'est maître Chuang. Alors c'est avant tout un texte qu'on appelle parfois le Chuang Tzu, qui date en gros de 500 avant l'ère chrétienne, donc c'est contemporain si vous voulez de l'apparition de la philosophie en Grèce par exemple.
C'est contemporain de Confucius aussi.
C'est un peu après.
Un peu après.
C'est un peu après. Le Chuang Tzu a une particularité, il connaît l'enseignement de Confucius, qui s'est transmis notamment par tout un tas d'écoles, de rites, de textes, etc. Mais il a une place un peu à part dans l'histoire de la philosophie chinoise et de la pensée chinoise, qui est souvent en fait associée au taoïsme, à la pensée du taoïsme, et qui d'après Bitter d'ailleurs a du coup un peu occulté la particularité en fait des réflexions de Chuang Tzu, et qui a même en fait conduit souvent à des contresens. On en a fait un représentant et peut-être même probablement un des chefs de file du taoïsme, avec Lao Tse, qui est aussi un des maîtres du taoïsme. Alors, il faut essayer peut-être de situer un petit peu les choses là. Je suis pas du tout spécialiste de l'antiquité chinoise, mais pour repérer un petit peu les qui est qui et quelle est la postérité des uns et des autres, les trois grandes figures, si vous voulez, on peut rajouter aussi la culture bouddhiste avec ça, enfin que tu connais bien toi, Michel. Et du coup, les trois.
José nous a demandé de préciser que le bouddhisme était une fausse religion à la radio. Alors dans la mesure où pour moi toutes les religions sont fausses, j'ai aucun problème à l'affirmer, mais
on lui laisse la responsabilité.
On lui laisse la responsabilité de ce genre d'affirmation provocatrice.
Parce que contrairement à toi, il y connaît rien.
C'est ça. Contrairement à moi, il y connaît rien. Alors moi, je suis
un fervent supporter du petit véhicule.
Alors je referme cette parenthèse polémique. Donc plus sérieusement, donc pour repérer un petit peu, pour situer le Chuang-tzu et puis un peu l'œuvre du coup et l'intérêt de ça, le plus ancien de tous ces gens-là, c'est Confucius. Alors Confucius, c'est vraiment le père fondateur, si vous voulez, de la culture intellectuelle chinoise, pourrait-on dire. En tout cas, c'est comme ça qu'il est considéré. C'est quelqu'un qui, en fait, a la particularité d'avoir développé un système cosmologique, donc une espèce de description générale de l'univers, de la nature, des choses et de l'être humain situé dans ce cosmos-là, qui est tout entier, en fait, organisé autour d'un principe d'harmonie générale. Et Confucius est aussi quelqu'un qui va chercher du coup à penser la nature, la place de l'homme dans l'univers, et qui va chercher à partir d'une certaine conception de l'harmonie à voir comment cette harmonie pourrait être trouver une traduction dans l'organisation de la vie sociale et politique et dans le gouvernement du prince. Autrement dit, Confucius est un penseur du pouvoir. C'est un penseur du pouvoir et c'est quelqu'un qui a fait énormément pour aller dans le sens d'une naturalisation de l'autorité et du pouvoir.
Il est souvent présenté chez nous comme quelqu'un qui va glorifier les traditions, oui. L'autorité, oui. Une espèce de déférence automatique à l'égard des autorités traditionnelles.
Et de déférence à l'autorité parce que au fond l'autorité est naturelle. Hein. C'est ça effectivement ce qui va être central. Alors en même temps c'est quelqu'un qui peut pas se résumer à ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit à une époque où il n'existe pas de pouvoir central ou de pouvoir impérial en Chine. Mmh. On est dans une époque où la Chine est morcelée entre différentes principautés, entre différentes cours. Qui se font la guerre les unes aux autres, et Confucius, il est dans ce contexte-là. Donc il ne faut pas faire d'anachronisme, si tu veux, en faisant une espèce de
penseur impérial d'avant, voilà, avant l'heure.
Mais par contre, il a bien sûr été utilisé par, ensuite, les commentateurs dans le sens de la constitution d'une pensée impériale qui va, c'est un peu plus tard, si tu veux. Donc tu as Confucius qui est un peu la figure tutélaire, voilà, de toute la philosophie ou de la culture chinoise. Ensuite, tu as Chuang Tzu, qui est alors plus ou moins au départ un disciple et qui lui-même va avoir des élèves. Le Chuang Tzu, du coup, c'est l'ensemble des textes qui sont attribués à Chuang Tzu, mais qui sont aussi tout aussi bien des textes de ses disciples. Il est difficile de savoir ce qui est exactement de Chuang en tant que tel et puis de ses disciples. Et alors, au départ, il a cette formation-là et en même temps, c'est quelqu'un qui va suivre une route tout à fait différente. Parce que face à Confucius, tu as en fait une espèce de réaction qui va accompagner, et ça, il explique ça très bien, Bitter, la mise en place progressive d'un pouvoir fort en Chine. Alors, ça va être d'abord d'un pouvoir fort qui va se constituer au sein des différentes cours impériales, avec l'idée qu'au fond, il faut pacifier la situation. Il faut donc un gouvernement qui puisse être obéi, qui puisse effectivement fonctionner de manière opérationnelle. Et donc, on a besoin de justification du pouvoir et de l'autorité du prince. Donc on va aller chercher ces Confucius, ce genre d'arguments. Alors il y a des légistes, notamment ceux qu'on appelle les légistes, qui vont petit à petit théoriser le pouvoir du prince et le faire à partir de l'harmonie de la nature et du fait que le prince occupe une place presque cosmique au fond, hein, dans l'ordre des choses et donc dans l'ordre des êtres, voilà, donc il est normal que il est naturel de lui obéir, etc. Et en réaction par rapport à ça, tu as donc le taoïsme, la pensée du taoïsme, qui va en fait si je résume, vraiment, c'est ultra caricatural ce que je dis ça, mais c'est au fond comment échapper, si tu veux, à cela, comment fuir les relations de pouvoir dans une espèce d'utopie de fuite individuelle ou d'échapper, de désertion individuelle, on va dire ça comme ça. Avec l'idée que du coup, par le travail sur soi, par le travail sur la conscience, par l'ascèse, par l'allègement, par la fuite aussi en dehors des villes et de la vie sociale, on peut échapper, si tu veux, à cette espèce de verrouillage progressif qui est en train de se mettre en place sur l'expérience individuelle, sur la liberté individuelle, la liberté de choix, etc. et sur la mise en place comme ça d'un système pyramidal. Le taoïsme est associé à ça, c'est cette espèce d'échappée belle, je dirais, face à la concentration du pouvoir et à la naturalisation du pouvoir dans les sociétés et dans la culture chinoise. Et alors, Chuang Tzu est associé plus ou moins à cela. C'est-à-dire que très souvent, on le considère, parce qu'on va le voir, c'est quelqu'un qui prône une espèce d'ascèse, une espèce qui enjoint systématiquement d'apprendre à faire le vide et à entrer en contact avec justement le corps, perçu comme une espèce de principe d'activité qui ne nomme pas les choses, qui ne désire pas les choses, qui n'a pas d'intention particulière. Il y a une espèce de travail de apprendre à faire le vide, pour faire vide, je citerai après des textes pour expliquer un peu en quoi ça consiste, il a souvent été associé à cette espèce de réaction, si tu veux, taoïste, voilà, d'évasion individuelle, de désertion individuelle, de refuge, hein, dans l'individualité, dans le travail sur soi, pour essayer de s'accommoder d'une certaine manière de cette centralisation et de ce renforcement des rapports de pouvoir dans la société chinoise.
Ah, c'est marrant, parce que c'est quelque chose qu'on a souvent dit du stoïcisme ou de l'épicurisme.
Exactement,
à l'époque impériale romaine.
C'est bien sûr.
Et c'est le moment où les philosophes s'aperçoivent qu'ils n'ont plus aucun poids politique et ils se disent, tout ce qui nous reste, c'est en quelque sorte
maîtriser nous-mêmes,
parce que de toute façon, on ne maîtrise rien d'autre.
Alors, t'as des proximités très claires, si tu veux, c'est ce dont ça se rapproche le plus. Alors d'ailleurs, c'est à peu près à la même époque, alors bon, à un siècle près, le contexte n'est pas tout à fait le même, mais effectivement, c'est quelque chose d'assez comparable. Et alors, donc, par rapport à ça, alors, l'autre grande tradition qui est en jeu dans cette affaire-là, c'est le bouddhisme, qui n'est pas si éloigné, en fait, dans ses aspirations, mais qui, elle, pour le coup, a une ambition clairement religieuse, donc avec l'idée de règles religieuses, de traditions, de transmission, de textes, de rapports au sacré, etc., de monastères, d'isolement, de séparation aussi des groupes entre ceux qui sont, entre les clercs, ou les moines, et puis le profane, mais on est sur quelque chose qui est assez comparable, si tu veux, du point de vue des ambitions au taoïsme, hein, c'est-à-dire au fond une forme de dépolitisation et un retrait. La sagesse va consister à se retirer en quelque sorte de la vie sociale et à essayer de trouver une espèce de refuge dans le travail sur soi, dans l'ascèse, dans le travail de purification de soi-même, de maîtrise de soi-même.
Et comme dit Mouzil quelque part dans son journal, l'homme bon ne transforme pas le monde, il s'en retire.
Exactement. Et ben alors là, on était typiquement là-dedans. Et le Chuang Tzu a été vu comme justement une espèce de version un peu dandy de ça. De version un peu dandy, et très souvent, ce que dit Bitter, je trouve ça très intéressant, il dit qu'en fait, il a très souvent été utilisé finalement par les aristocrates, par la suite, comme une espèce de manuel pour arriver à supporter, en fait, l'esprit de cour et l'espèce de servitude volontaire qui va avec. Et c'est comme ça qu'il a été commenté, c'est-à-dire comme une espèce d'héritier de Confucius, voilà, et en même temps de porte-parole du taoïsme, qui nous expliquait comment accepter les rapports de pouvoir et comment accepter... plutôt à destination des aristocrates, si tu veux, qui constataient effectivement petit à petit qu'ils étaient amenés à obéir comme des larbins, si tu veux, au prince, puis ensuite à l'empire. Et donc ça veut dire que
là on tomberait plutôt du côté de Pierre Rabhi, peut-être.
Alors
c'est méchant.
Ouais, c'est un peu méchant pour tout le monde. Mais
c'est surtout pour ceux qui ne sont pas Pierre Rabhi.
C'est ça. Mais Et alors, tout l'intérêt de Bipper, c'est de montrer qu'en fait, c'est un contresens. C'est-à-dire qu'en fait, le Chuang Tzu n'est pas du tout réductible, alors ni au confucianisme, ça c'est clair, ni en fait au taoïsme. C'est une pensée, alors, de la subjectivité, tu l'as dit, c'est-à-dire du sujet, et de l'expérience subjective, de l'expérience personnelle, et c'est aussi une critique du pouvoir, et une critique absolument radical du pouvoir. Et l'idée, alors c'est une philosophie, on va y venir, qui insiste beaucoup sur le travail de conversion personnelle, de conversion de soi-même, un travail qui peut t'amener effectivement à découvrir, à intégrer en fait certaines expériences de toi-même qui sont en fait interdites par la vie courante ou la vie ordinaire. Donc il y a des pistes de ce côté-là, et par ce type de conversion arriver éventuellement aussi à provoquer ce type de conversion chez l'homme de pouvoir. Chez l'homme de pouvoir, avec l'idée que, et on va ensuite, je reprendrai ça après la pause, avec l'idée qu'en fait, on est d'autant plus efficace qu'on ne cherche pas à l'être. Ce qui fait, pour terminer sur cette affaire-là, qu'en réalité, la lecture qu'il en fait, et elle est à la fois convaincante et en même temps très séduisante, c'est au fond qu'il lit le Chuang Tzu comme une espèce de texte d'éthique libertaire un peu avant l'heure, avec une espèce de critique du pouvoir assez radicale qui est à cheval entre l'éthique et le travail sur soi individuel et la critique du pouvoir spécifiquement politique. Et évidemment, ça rend les choses beaucoup plus intéressantes.
Que du développement personnel. Donc on va écouter un peu de musique, et puis de la bonne musique par José, et puis on revient. We'll be right back. Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et c'est Jeudi Noir donc, qui reprend pour cette deuxième partie, donc dans une émission présentée essentiellement par Jean Mathias, qui parle tout le temps. Et c'est une émission consacrée donc, à Chuang Tzu, enfin, ou au Chuang Tzu, puisque c'est avant tout peut-être un livre. Contenant tout un tas de, comment dire, de préceptes, d'idées, de développement, de récits peut-être aussi, d'histoires j'imagine, un tas de petites choses comme ça, qui exposerait en quelque sorte, non pas forcément une spiritualité en avance sur les coachings de développement personnel actuel ou ce genre de trucs, mais plutôt une espèce de, peut-être d'après ce que j'ai compris du récit de Jean Mathias, enfin de la présentation de Jean Mathias, de posture à la fois éthique, intellectuelle et esthétique à l'égard du pouvoir, qui permettrait de le remettre en cause sans s'y opposer, sans en souffrir.
Ah non, il s'agit de le remettre en cause, c'est-à-dire qu'il s'agit de en fait, il s'agit de le détruire.
Il s'agit de le détruire, d'accord.
Ah, il s'agit de le détruire. Oui, il s'agit de le détruire.
Alors, mais quoi, avec des vannes?
Ah non, de le détruire avec des fables.
D'accord.
Avec des, des fables.
Oui. Donc de le détruire. C'est pour ça qu'on a recruté José.
Oui, bah oui, ça marche d'ailleurs. de le détruire en soi, évidemment, et de le détruire aussi autour de soi, sachant qu'alors attention, je veux dire, c'est pas un manuel de pétroleur ou de nihiliste.
D'accord, c'est pas et maintenant des armes. Quoi.
Non, c'est pas ça. Mais c'est un des effets effectivement du projet. En fait, si tu veux, ce que j'ai essayé de dire, c'est peut-être, mais c'est compliqué si tu veux sans le contexte et sans le la postérité ou la lecture, de situer un petit peu où on va avec ça. Il faut dire deux mots quand même aussi sur la lecture de Bitter lui-même. En fait, il le lit en philosophe pour le coup. Et ça, c'est un enjeu, si tu veux, parce que tu as mentionné Julien tout à l'heure, François Julien, là, qui est donc le sinologue, effectivement, un peu qui tient le haut du pavé là-dessus, que Bitter ne peut pas encadrer, parce que François Julien a fait toute sa carrière sur, en fait, une interprétation, une présentation de la pensée chinoise où il présente ça comme un truc qui est incompréhensible.
Oui.
Et qui est radicalement différent, une espèce de grammaire, des concepts, une manière de voir les choses complètement différente de l'Occident, qui évidemment a une manière de voir tout à fait cohérente, comme chacun sait. Et donc, alors voilà, il y a la pensée chinoise, et puis il y a la pensée occidentale, et donc il faut se convertir à la pensée chinoise pour essayer. Et donc, évidemment, tu n'es jamais assez converti, puisque seul François Julien, lui, a les clés de cette pensée-là. Et alors, Bitter, ça l'horripile au dernier degré, cette affaire-là, parce qu'en fait, il dit que c'est une manière. Au fond, en réalité, c'est une certaine interprétation de la pensée chinoise qui remonte en fait aux jésuites. Les jésuites ayant été complètement emballés par la pensée impériale chinoise. Puisqu'évidemment, c'est des penseurs de l'autorité et d'une organisation monarchique pyramidale de l'Église et du pouvoir en général. Et les jésuites ont trouvé ça extraordinaire que les Chinois ou l'Empire chinois aient pu mettre en place un truc aussi efficace dans la manière de penser les rapports de pouvoir. Et en fait, ce que défend François Julien d'après Bitter, c'est une lecture jésuite de la culture impériale chinoise. Et donc, qui nous explique qu'on ne peut pas bien comprendre parce que justement, on est en bas. Voilà. Et que seul celui qui est en haut et qui a compris sa place privilégiée dans le cosmos peut en réalité avoir les clés du problème. Alors c'est pas du tout comme ça qu'il lit le Chuang Tzu et c'est pas du tout comme ça qu'il lit les auteurs chinois. Au fond, il nous dit qu'un des enjeux, c'est de comprendre Chuang Tzu comme un philosophe. Ce que ne fait pas Julien. François Julien, ou la plupart, comme la quasi-totalité des commentateurs, ne le voit pas comme un texte philosophique. Il le voit comme une espèce de texte plus ou moins ésotérique, assez difficile d'accès, assez peu compréhensible, qui tendrait vers une espèce, je te dis, de dégagement un peu aristocrate à l'égard du pouvoir, comment effectivement supporter son chef sans le remettre en question. Voilà. C'est comme ça qu'il a été vu et c'est comme ça qu'il est commenté depuis des siècles, nous dit Bitter, et c'est pas du tout comme ça que lui veut le lire. Et c'est pas du tout comme ça qu'on peut le comprendre, d'après lui. C'est-à-dire qu'il veut le lire en philosophe. Alors, son idée, elle est très séduisante, pour le coup, je trouve. Il s'agit de comprendre des textes du Chuang Tzu en les rapportant à un contenu d'expérience. C'est-à-dire en essayant de voir de quoi il nous parle. De quoi il nous parle, à quel type de sentiment, de sensation, de situation on peut ramener ça. Et il prend le parti de voir chez Chuang Tzu un travail qui est d'abord un travail de description de l'expérience. Alors ça, c'est une constante chez lui. Alors il se réclame d'un certain nombre d'auteurs, bon, notamment Wittgenstein ou des gens comme ça, en disant que le plus difficile finalement en philosophie, c'est pas de spéculer ou d'avoir des grandes idées confuses, c'est en fait de décrire les choses avec précision. Et d'après lui, Chuang Tzu, et c'est assez convaincant, je dois dire, la manière dont il le lit, est un, voilà, propose des descriptions de ce genre tout à fait précises et fascinantes. Hein. Alors, l'autre difficulté du texte, et alors, moi, j'ai pas lu l'ensemble du texte, ni dans sa, voilà, dans sa continuité, c'est qu'en fait, comment ça se présente, ces deux livres? Ce sont des commentaires d'extraits qui ressemblent à chaque fois à des espèces de petites fables ou de situations ou de dialogues, très souvent, dans lesquels donc des personnages sont amenés à, voilà, à discuter ou à disserter ou à réagir sur certaines, voilà, des situations, des questionnements. Je vais en lire quelques-uns tout à l'heure. Et Bitter a l'habileté, c'est très très élégant sa manière de faire, c'est-à-dire qu'en fait il présente comme ça, pièce par pièce, certains extraits, et il essaye, et petit à petit il montre comment ces pièces résonnent l'une par rapport à l'autre, et comment petit à petit se dessine une interprétation possible de certains dialogues clés ou de certaines scènes clés. C'est-à-dire qu'il y a un travail de puzzle comme ça. Alors lui, il parle de travail polyphonique, hein, d'interprétation polyphonique, en essayant à chaque fois de rester au plus près de ce dont nous parle, ou de l'expérience dont nous parle le texte. Il dessine petit à petit, comme ça, une espèce de réseau de sens, de concepts qui donne, du coup, qui permet de comprendre concrètement ce qui est raconté, hein, dans les dialogues qui à première vue peuvent paraître les plus obscurs. Il y a vraiment un effet de dévoilement qui est très très agréable, très fort et très convaincant, je dois dire, sans aucune esbrouffe, hein, de sa part. Alors ça nécessite qu'il ait compris évidemment et qu'il ait sélectionné à chaque fois les passages. Je pense qu'il y a un travail extraordinaire derrière, hein, mais ce qui est restitué, il y a phrase courte, limpide, à chaque fois extrêmement simple dans leur construction, et on avance pièce par pièce comme ça, et on construit petit à petit une interprétation du texte qui se tienne, une interprétation qui finit par en faire effectivement un texte de philosophe, au sens où lui le dit, c'est-à-dire avant tout une description de l'expérience. De l'expérience de nos activités, de l'expérience individuelle et des conséquences pratiques qu'on peut en tirer.
Alors, de quel type d'expérience? Parce que,
alors, allons-y.
Est-ce que c'est l'expérience, je ne sais pas moi, l'expérience de la rosée du matin quand tu te lèves, ou est-ce que
c'est
l'expérience de la couleur du courtisan préféré, vêtements du courtisan
préféré? Je vais lire trois petits extraits qui sont tirés donc, des leçons sur Chuang Tzu. Où vous verrez alors que, en fait, ça parle essentiellement, ce sont des situations qui très souvent, d'abord, partent de nos activités, de notre manière d'agir, et qui va petit à petit apprendre à distinguer différents niveaux, différents registres d'activité, et à voir comment on peut éventuellement accéder d'un niveau à un autre pour aller vers une meilleure compréhension de ce que nous sommes ou de ce que nous pouvons faire. Alors je vais essayer de lire un premier extrait, c'est au tout début là des leçons. C'est un premier dialogue qui met en scène un contemporain de Chuang Tzu, le prince Wen Wai, qui est souverain de l'état de Wei, et l'un de ses cuisiniers, qui est un personnage imaginé par Chuang Tzu. Le cuisinier Ting dépeçait un bœuf pour le prince Wen Wai. On entendait des wouah quand il empoignait de la main l'animal, qu'il retenait sa masse de l'épaule et que la jambe arc-boutée du genou l'immobilisait un instant. On entendait des wouah quand son couteau frappait en cadence, comme s'il eût exécuté l'antique danse du bosquet ou le vieux rythme de la tête de lynx. « C'est admirable !» s'exclama le prince. « Je n'aurais jamais imaginé pareille technique !» Le cuisinier posa son couteau et répondit. « Ce qui intéresse votre serviteur, c'est le fonctionnement des choses, non la simple technique. Quand j'ai commencé à pratiquer mon métier, je voyais tout le bœuf devant moi. 3 ans plus tard, je n'en voyais plus que des parties. Aujourd'hui, je le trouve par l'esprit sans plus le voir des yeux. Mes sens n'interviennent plus, mon esprit agit comme il l'entend et suit de lui-même les linéaments du bœuf. Lorsque ma lame tranche et disjoint, elle suit les failles et les fentes qui s'offrent à elle. Elle ne touche ni aux veines, ni aux tendons, ni à l'enveloppe des os, ni bien sûr à l'os même. Quand je rencontre une articulation, je repère le point difficile, je le fixe du regard et, agissant avec une prudence extrême, lentement, je découpe. Sous l'action délicate de la lame, les parties se séparent avec un wow léger, comme celui d'un peu de terre que l'on pose sur le sol. Mon couteau à la main, je me redresse, je regarde autour de moi, amusé et satisfait, et après avoir nettoyé la lame, je la remets dans le fourreau. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a une petite histoire, une petite historiette apparemment transparente, hein, apparemment sans trop de conséquences, qui, d'après Bitter, doit être interprétée comme une forme de théorie de l'apprentissage, ou en tout cas de description de ce que c'est qu'apprendre le fonctionnement des choses. Le fonctionnement des choses, en partant donc d'abord du d'une étape où on voit l'objet qu'on doit travailler dans sa totalité, puis ensuite de diviser dans ses parties, de manière plus analytique, on dirait, si on parle en philosophe, et ensuite de le faire sans même plus le voir, c'est-à-dire d'avoir intégré petit à petit les découpages, les parties, la manière dont on a pensé en quelque sorte voilà le schéma de son activité, mais sans plus avoir justement à y réfléchir ou à l'observer. Cette espèce de mouvement d'intégration progressive. Alors, il y a là différents stades de l'apprentissage. Hein. Quatre phrases très brèves, très frappantes, hein, avec des observations, vous voyez, extrêmement précises, extrêmement limpides. Hein. Et derrière, cette idée que apprendre à maîtriser le fonctionnement des choses, c'est apprendre à intégrer petit à petit hein, une activité, à posséder un geste hein, sans avoir à le décomposer ou à penser ses étapes, ni même l'objet sur lequel ce geste va agir. Alors, dit comme ça, on pourrait effectivement avoir l'impression de dire un peu des généralités, mais évidemment, c'est des choses qui ensuite vont avoir toute leur importance, parce que ce que dit Chuang Tzu, c'est que les choses se passent comme ça et pas autrement. C'est-à-dire qu'en fait, que toute autre description serait confuse ou à côté, et ne permettrait pas de voir comment on peut accéder au fonctionnement des choses. Deuxième extrait, pour vous donner toujours une idée du style de récit qu'on peut trouver, ou de texte qu'on peut trouver dans le Chuang Tzu. Alors, le deuxième nous présente une scène qui se passe dans l'une des cours du palais, hein, du palais du duc Wuhan, qui est un célèbre souverain de l'état du Qi, nous dit-on, hein, qui aurait régné de 685 à 643. Et cette fois-ci, l'interlocuteur, c'est un charron. L'interlocuteur du duc, c'est un charron, donc un conducteur de char, de charrette. La scène se passe dans l'une des cours du palais. Pitter nous dit, je précise tout de suite qu'il est inconcevable qu'un charron gravisse les marches menant à la salle où se tient le souverain et lui adresse la parole sans y avoir été invité, comme va le faire le charron. Ce qui n'est pas un détail. Parce que du coup, effectivement, dans ce face-à-face et dans cette réponse du charron au duc, il y a déjà une certaine idée des conceptions de Chuang Tzu sur la notion de pouvoir et sur l'égalité au fond qui existe entre les êtres. Le duc Wuhan, nous dit le Chuang Tzu, lisait dans la salle, le charron Pien taillait une roue au bas des marches. Le charron posa son ciseau et son maillet, monta les marches et demanda au duc, c'est lui qui adresse la parole au duc, hein, puis-je vous demander ce que vous lisez ? Les paroles des grands hommes, répondit le duc. Sont-ils encore en vie ? Ah non, ils sont morts, dit le duc. Alors ce que vous lisez là, ce sont les déjections des anciens, lui dit le charron. Comment un charron ose-t-il discuter ce que je lis ? Répliqua le duc. Si tu as une explication, je te ferai grâce, sinon tu mourras. J'en juge d'après mon expérience, répondit le charron. Quand je taille une roue et que j'attaque trop doucement, mon coup ne mord pas. Quand j'attaque trop fort, il s'arrête dans le bois. Entre force et douceur, la main trouve et l'esprit répond. Il y a là un tour que je ne puis exprimer par des mots, de sorte que je n'ai pu le transmettre à mes fils, que mes fils n'ont pu le recevoir de moi, et que, passé la septantaine, je suis encore là à tailler des roues malgré mon grand âge. Ce qu'ils ne pouvaient transmettre, les anciens l'ont emporté dans la mort. Ce ne sont que leurs déjections que vous lisez là. Alors, là, on a encore une deuxième petite historienne.
A-t-il la vie sauve ?
Alors, a-t-il la vie sauve ? Il ne nous le dit pas. Mais l'idée, on est toujours dans les différents registres d'activité, dans la manière dont on peut posséder un geste, et surtout dans le fait de posséder un geste et dans l'exécution d'un geste, est absolument impossible à saisir par les mots et à transmettre par des mots.
C'est le savoir-faire.
Le savoir-faire, le tour de main, la synthèse du geste. L'idée, c'est que cette activité, elle suppose effectivement une sorte de perception directe du geste à accomplir, et que cette perception directe du geste, elle est intraduisible par le langage.
Mais indépendamment de l'aspect philosophique, ouais, sur l'apprentissage, qu'est-ce qu'on peut transmettre ou pas, ça me fait penser aussi au récit de Nasreddin. C'est des récits souvent, un peu satiriques, d'un sage sous l'Empire ottoman, qui est soit un peu fou, soit un peu peuple, soit très très malicieux, et qui très souvent va être confronté à des figures de pouvoir.
C'est une forme de conte en fait.
Et avec des formes de conte qui vont faire passer des idées. Graeber s'en servait beaucoup dans La Dette, par exemple. Il y a tout un tas d'histoires comme ça où justement t'as un personnage populaire qui à la fois est impertinent et témoigne d'une forme de sagesse par rapport au puissant.
Ben, là, si tu veux, t'as ça. Alors, c'est un peu. T'as, et en même temps, t'as la sagesse, et en même temps, à chaque fois, t'as un enseignement, si tu veux, alors proprement philosophique, d'après Bitter, qui est transmis dans la conversation. C'est-à-dire que là, on a effectivement... Et alors, il faut voir un peu l'ensemble, si tu veux, parce que là, en fait, c'est touche par touche, comme je l'ai dit, hein, que Bitter va avancer idée par idée, et ensuite essayer de montrer comment tout ça fonctionne ensemble.
D'accord.
Hein? Alors, troisième extrait, je dis toujours. Alors là, apparaît le personnage de Confucius, qui visiblement est une des figures effectivement du Chuang Tzu, qui apparaît là comme une espèce de grand maître avec qui il a une certaine proximité, en même temps de l'ironie, de la distance. C'est lui qui cherche à savoir, quoi. Voilà. Donc il est. Donc en fait, on voit bien que Chuang Tzu n'est pas hostile à Confucius hein, dans ces textes-là, parce qu'en fait, Confucius n'est pas encore devenu l'idéologue officiel de l'Empire non plus à l'époque. Hein. Il est. Alors bon. Il a déjà développé tout ce qui sera ensuite repris derrière, mais c'est pas comme ça que Chuang Tzu le voit. Alors, il nous raconte cette histoire. Donc, Confucius admirait les chutes du Luliang. L'eau tombait d'une hauteur de 300 pieds et dévalait ensuite en écumant sur 40 lieues, nous dit Chuang Tzu. Ni tortue ni crocodile ne pouvaient se maintenir à cet endroit. Mais Confucius aperçut un homme qui nageait là. Il crut que c'était un malheureux qui cherchait la mort et dit à ses disciples de longer la rive pour se porter à son secours. Mais quelques centaines de pas plus loin, l'homme sortit de l'eau et, les cheveux épars, se mit à se promener sur la berge en chantant. Confucius le rattrapa et l'interrogea. « Ah, je vous ai pris pour un revenant, mais de près vous m'avez l'air d'un vivant. Dites-moi, avez-vous une méthode pour surnager ainsi ?»« Non, répondit l'homme, je n'en ai pas. » »« Je suis parti du donné, j'ai développé un naturel et j'ai atteint la nécessité. » Je me laisse happer par les tourbillons et remonter par le courant ascendant. Je suis les mouvements de l'eau sans agir pour mon propre compte. Que voulez-vous dire par partir du donné, développer un naturel et atteindre la nécessité ? Demanda Confucius. L'homme répondit, je suis né dans ces collines et je m'y suis senti chez moi. Voilà le donné. J'ai grandi dans l'eau et je m'y suis peu à peu senti à l'aise. Voilà le naturel. J'ignore pourquoi j'agis comme je le fais, voilà la nécessité. Alors là, on voit que sur un récit comme ça, on commence à monter un peu en abstraction, je dirais, mais toujours avec le même type de récit, en fait. C'est pas vraiment on n'est pas sur un argumentaire, sur une démonstration, sur un traité philosophique. Hein. On nous avance, en fait, on nomme des différents stades ou différents types d'expériences. Alors, lié à l'apprentissage, dans le premier cas, lié à l'exécution d'un geste. Ici, lié, en fait, à une tâche qui paraît impossible, vu de l'extérieur, avec ces trois étapes-là, le donné, le naturel, le nécessaire. Avec l'idée que donc, le donné, ben, au fond, c'est l'expérience immédiate du lieu où on se trouve, d'une certaine manière. Et vous voyez comment c'est formé, comment c'est formulé. Je suis né dans ces collines, je m'y suis senti chez moi. Ce n'est pas une théorie, le donné. C'est pas une connaissance non plus, c'est l'endroit où l'on est, l'origine de nos expériences et la manière dont on les vit, dont on les éprouve. Hein? Ensuite, donc le naturel, j'ai grandi dans l'eau et je m'y suis peu à peu senti à l'aise, voilà le naturel. J'ignore pourquoi j'agis comme le fait au-delà de la nécessité. Alors, il y a un travail ensuite d'interprétation sur le nécessaire, c'est-à-dire comment arriver à se comporter ou à agir, hein, à vivre, à évoluer, à se mouvoir, sans avoir à le penser. Rappelez-vous, le geste est indicible, hein, sans pouvoir le transmettre non plus sous forme d'une méthode, en ayant intégré progressivement les différents degrés de l'activité. Hein, rappelez-vous, le boucher hein, qui tranche, voilà. Donc tout ça doit effectivement faire partie de l'apprentissage qui conduit au geste naturel, au fait de posséder un geste naturel. Et le fait de ne pas savoir ce qu'on fait passe aussi par, d'une certaine manière, une forme d'oubli de ce qu'on a en face, et du milieu dans lequel on évolue. Hein. Bitter nous dit, en fait, au fond, finalement, ce nageur, il apprend à nager de manière parfaite. Pourquoi ? Parce qu'il oublie l'eau. Hein, il se déplace et intégrer la nécessité, d'après, on voit bien comment ça a pu être interprété comme une espèce d'apprentissage de la résignation un peu sur un mode stoïcien, etc. Mais intégrer la nécessité, ça passe par un travail d'apprentissage de soi-même d'une certaine manière, hein, et qui passe par un oubli de ce qui s'oppose à soi ou du milieu qui pourrait contraindre ses faits et gestes. Alors, Bitter commente. Les trois dialogues que j'ai cités ont des points communs. Dans les trois cas, un homme travaille ou agit et suscite l'admiration ou l'effroi. Il est absorbé par l'exercice de son art. S'il en dit quelque chose, c'est parce qu'il est interrogé et s'arrête pour parler. Il s'exprime avec netteté, en peu de mots, car il n'a rien à prouver. Le pouvoir dont il vient de faire la démonstration, c'est bien un pouvoir, est une preuve suffisante. Il décrit ce qui se passe quand il agit et donne tout naturellement à sa description une portée générale. Artisan ou peuple ou homme du peuple, né là dans ces collines. Il s'adresse à des souverains fameux, à Confucius, à ses disciples, dans le troisième dialogue. Et il n'y a aucune trace d'obséquiosité dans cela. À chaque fois, il s'agit donc de décrire une expérience, une description de l'infiniment proche, qui, selon Bitter et selon le Chuang-tzu, est finalement le substrat le plus universel de notre existence, dit-il. C'est en ça que le Chuang-tzu peut nous parler et qu'il n'y a rien d'opaque ni d'ésotérique dans la pensée chinoise. Voilà un peu la manière, si vous voulez, dont Bitter procède. Et ça vous donne une idée, si vous voulez, de son style et de ce qu'il appelle sa philologie critique, qui cherche, du coup, à partir comme ça, petite touche par petite touche, à constituer les différentes notions du texte du Chuang-tzu. On fait une petite pause peut-être, et puis après, je parlerai un peu de ce qu'il dit sur le pouvoir, parce qu'il me semble que c'est assez intéressant.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire pour sa troisième et dernière partie. Jeudi Noir pour sa troisième et dernière partie, dans une émission consacrée à François Bitter. Jean-François Bitter, c'est le son sur Chuang-tzu. Et vous venez d'entendre un morceau d'un groupe punk luxembourgeois, ça existe. J'étais sceptique aussi. Et le morceau, dans lequel on pouvait vraiment entendre une grande rage, s'intitule fort justement Fuck Taoism.
Rage luxembourgeoise, hein.
Voilà, rage luxembourgeoise féroce.
Déposé.
Voilà, et donc là.
C'est brutal.
C'est brutal, quoi. Mmh. Et donc là, Jean-Mathias va nous présenter dans les leçons sur Chuang-tzu de Jean-François Bitter, publié donc chez Alia, le côté critique du pouvoir qui serait contenu dans ces textes parfois un peu sibyllins, mais en même temps très très proches d'expériences tout à fait concrètes.
Alors, je suis obligé d'aller vite là-dessus, d'une part, parce que c'est pas évident à commenter, vous en apercevoir. Les thèmes dans les leçons, là, les thèmes, si on peut appeler ça comme ça, que Bigter va essayer de faire ressortir, si tu veux, à partir de ces historiettes, c'est très souvent l'idée que justement cette compréhension de soi-même, de nos actes, elle mène vers ce qu'il appelle une espèce de conception de la subjectivité, donc de l'expérience personnelle, qui est très singulière parce qu'au fond, elle ne correspond pas à ce qu'on qu'on discute habituellement en philosophie. Et je pense qu'il a, enfin, en tout cas, c'est assez convaincant la manière dont il le présente. Il nous dit au fond, le sujet humain ou l'expérience personnelle subjective, c'est pas celle de quelqu'un d'autonome ou de conscient ou de réflexif, hein. C'est pas comme ça qu'elle est pensée dans le Chuang Tzu. C'est plutôt l'expérience personnelle, elle est pensée comme une espèce de va-et-vient entre le vide et les choses. Et soit le vide, c'est le corps, c'est l'origine de nos sensations, l'origine de notre expérience elle-même. Et c'est ce vide-là, effectivement, qu'il faut apprendre d'abord à redécouvrir, à retrouver, à rééprouver, à ressentir d'une certaine manière. Comme on dit, effectivement, la nécessité de faire le vide, hein, de faire le vide en soi, pour pouvoir, effectivement, permettre à ces forces de s'organiser, de retrouver cette espèce de configuration nécessaire. Si tu veux, dont parle le nageur là quand il parle à Confucius, qui est aussi en fait celle qui permet d'agir conformément justement au fonctionnement des choses. Et alors donc c'est ça cette espèce d'aller-retour là, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez singulier. Je vois pas d'équivalent, si tu veux, dans la tradition philosophique héritée de la philosophie grecque, d'équivalent entre avec cette espèce d'expérience de la subjectivité, de ce qu'il y a de plus personnel, de plus originel. Ça serait avant tout le vide, c'est-à-dire, et un vide qui est aussi une expérience aussi de confusion, qui est pré-effective, qui est avant le langage, qui est avant le découpage, avant le fait de nommer les choses par des mots, de nommer les choses par leur partie, hein, si on prend l'analogie là qui est utilisée avec le boucher. Donc voilà le type de sujet auquel on a affaire. Ça veut dire apprendre aussi à se dégager de toute forme de volonté ou de toute forme d'intention même. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose d'assez original, je trouve, cette manière comme de penser ce qu'il y aurait de plus premier, si tu veux, dans l'expérience individuelle, comme une espèce d'absence d'intention. Et c'est sur ce thème-là qui va, pour conclure, puisque j'en avais parlé au début, qui va penser la critique, l'analyse d'abord, et la critique du pouvoir. Le pouvoir, au contraire, est toujours une attitude dans laquelle il y a un excès d'intention, un excès de volonté. Et le propre du pouvoir, c'est une définition que je trouve assez, assez fascinante. Le pouvoir chez Chuang Tzu, c'est au fond la volonté de changer les autres sans accepter de se changer soi-même. Une belle définition du pouvoir, je trouve. Donc, être porté par une intention de changement, par une volonté de changement, d'imposer sa volonté ou d'imposer son intention aux autres, en refusant soi-même d'être changé en retour. C'est-à-dire en refusant, justement, ce moment où le fait d'être en relation avec quelqu'un nous aide à la fois à faire le vide et à rentrer en même temps en contact avec cette reconfiguration de ce que nous sommes, des forces qui nous font, en quelque sorte, qui font qu'on peut être en relation avec quelqu'un. Je trouve ça assez stimulant, en fait, comme manière de penser le pouvoir. Alors, comment il nous dit, au fond, alors c'est toujours des affaires de conversion ou de rapport à soi, hein, qui permettent de faire apparaître ce genre de choses. Il nous dit, au fond, les auteurs du Chuang Tzu condamnent absolument le pouvoir, nous dit Bigter. Ils le jugent mauvais parce qu'il résulte d'un refus de nous ouvrir au changement dans notre rapport à autrui et nous empêche par ce fait d'exercer sur lui une action féconde. Une relation féconde, c'est-à-dire celle qui va permettre à chacun d'accepter cette part de vide et cette part de reconfiguration qui va nous amener à être en rapport avec les sources de notre expérience propre, en quelque sorte, cette fécondité-là, elle passe par un renoncement à l'intention et à la volonté d'agir sur autrui. Et alors, il y a comme ça un certain nombre de petits dialogues, de présentations, où on a toujours soit un valet, soit un serviteur, soit un homme. Alors, il y a ce personnage-là qui, en fait, fascine complètement un personnage. Alors, je lis peut-être ce petit extrait là pour terminer, parce que il est assez drôle, hein. Et en fait, c'est la découverte par un homme de pouvoir, justement, de la force du du non-pouvoir ou de l'absence totale, justement, de volonté de pouvoir. Et cette force est absolument destructrice du pouvoir en tant que tel. Alors, je vais lire ce petit extrait, peut-être pour terminer, qui donnera une idée, justement, de la manière dont Chuang Tzu pensait à la fois la nature du pouvoir et la manière de s'en protéger soi-même et éventuellement de s'en protéger de la part des autres. Alors, c'est un petit dialogue qui du coup nous met en scène le duc Ai de Lu. Alors, qui compte ce qui suit à Confucius, à savoir ce qu'il en pensait. Alors, le récit, donc, c'est un récit qui est censé être rapporté. Il y avait à Wei, dit le duc, un dénommé plus qu'horrible, qui était affreusement laid. Mais les hommes qu'il fréquentait s'attachaient à lui et ne pouvaient plus le quitter. Les femmes qu'il apercevait imploraient leurs parents, disant « Mais j'aimerais être sa concubine. J'aimerais mieux cela que d'être l'épouse en titre de n'importe quel autre homme. » Il y en eut des dizaines. Il ne prenait aucune initiative. Il se contentait de répondre aux mouvements des autres. N'étant pas prince, il ne pouvait aider ceux dont la vie était menacée. N'ayant pas de grenier, il ne pouvait secourir les affamés. Sa laideur avait de quoi effrayer le monde entier. Il répondait, mais sans jamais prendre les devants. Il savait tout juste ce qui se passait dans la ville, et cependant, hommes et femmes affluaient auprès de lui. Me disant qu'il devait y avoir en lui quelque chose de particulier, je l'ai fait venir pour le voir. Sa laideur était en effet extraordinaire. Mais l'ayant près de moi, au bout d'un mois, je fus séduit par sa manière d'être. Et avant un an, je lui donnai ma confiance. C'est le duc qui parle. Comme je n'avais pas de premier ministre, je lui proposai la charge. Il fut évasif, tarda à me répondre. Il semblait vouloir refuser une tâche qui ne l'intéressait pas. J'étais dans l'embarras, puis je tranchais, lui confiant la conduite des affaires. Avant que j'eusse le temps de m'en apercevoir, il disparut, me laissant complètement désemparé, dit le duc, perdu, sans plus personne pour partager les joies du pouvoir. Mais quel genre d'homme était-ce selon vous ? Alors, ce petit, pour terminer sur cet extrait-là, qui est assez drôle, on a ce personnage-là qui est pas un personnage cynique, hein, puisque c'est juste quelqu'un qui s'emploie à ne pas chercher justement aucune position de pouvoir d'aucune sorte. Et d'après Chuang Tzu, c'est sans doute pour ça qu'il a cette efficacité ravageuse justement sur l'homme de pouvoir qui n'en peut plus d'être cet homme de pouvoir qu'est justement le duc et qui raconte la chose.
C'est un Bartleby qui aurait réussi.
Exactement. Il y a quelque chose de genre là. Ou un homme sans qualité, justement, qui passe au karcher, l'ensemble des qualités, à commencer par celle de l'homme de pouvoir. Alors, j'espère avoir donné un petit peu une idée du type de texte, d'approche et de rythme qu'il y a dans ces deux livres-là, les leçons sur Chuang Tzu et les études. Et vraiment, je recommande parce que c'est d'une, voilà, c'est à la fois une très, très singulier et très, très élégant, très, et voilà, très stimulant, en fait, comme type de lecture.
Voilà, donc c'était Jeudi Noir. On vous parlait d'un livre de Jean-François Billiter, Leçon sur Chuang Tzu, édité chez Alia. Et on va partir en musique, comme d'habitude. On se retrouve normalement la prochaine fois. Je pense que ça, c'est pas dans deux semaines, mais ce sera la prochaine fois. Ça, c'est comment dire, un démon irréfutable. Way to win, but never to accept a way to lose, to accept defeat. To learn to die is to be liberated from it. So when tomorrow comes, you must free your ambitious mind and learn the art of dying. Your algorithm off, pull like Malcolm riffing off. Beyond the slick talking, got my trigger finger clicking off. Most of us leave insecure, trying to impress our friends and all. It's an intrinsic flaw, like me binging on alcohol. Steroids gonna shrink your balls, everything to get an edge. Cause life could do you dirty like tap water in Bangladesh. My slang a threat to the establishment and wealth. Why would I wanna get put on when I'm establishing myself? Took a stab at it myself, I learned the ropes like Earl to go. Every verse personal, I got a word perfect. Flow is the proverbial introspective, pulley in perspective, holy chilling in Tibet with felonious connections. Live show perfection, then fallopians is stretching with a goal to totally destroy colonial perceptions. Life is like a rodeo, we rolling with the punches. We soaking up the lessons, then we grow it with abundance. Mind of Confucius, killing the illusions. Fill you with some organic food instead of pills you're using. Medicated music for the dedicated user. The mind's the only thing that separates.
traces from the future. Mind of Confucius, killing the illusions. Heal you with some organic food instead of pills you're using. Medicated music for the dedicated user. The mind's the only thing that separates us from the future. My schemes are Fibonacci, not for feeble minds and Nazis. Illuminati bars for evildoers trying to stop me. So many watchy watchy hibachi, I spit it choppy. They try to copy, so I switch it up, can never stop me. Traffic in this dope for all my kinfolk. Rest in peace to Kimbo, it's not simple living simple. Staring at my window, seeing struggle on their face expressions. Reminding me to stay present, cause every day's a blessing. Some days it's overwhelming, break it up in increments. Your body's just an instrument you use to make your vision live. I use my time like it's a prison bid. Never say I wish I did, cause everything I did I wish. That's the Jedi mind trick. Paint my world like it's a Lucasfilm. My goal.